Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui, on parle du phénomène BNPL, le mieux connu sous le nom de Buy Now, Pay Later. On enchaîne par la suite par un entretien avec Jean-Philippe Bergeron, président de l'entreprise Hola Bamboo. Bonne écoute! Buy Now, Pay Later ou BNPL. Si vous suivez assidûment le commerce électronique, vous avez forcément déjà entendu ce terme. Sinon, laissez-moi vous l'expliquer. C'est littéralement acheter maintenant, payer plus tard. Le BNPL est une pratique qui commence à s'imposer de plus en plus dans le paysage du commerce en ligne. L'idée est évidemment d'enlever la friction ultime à l'achat, à savoir le débit de votre carte de crédit. Cette ligne s'ajoute sur le site de votre banque. Bref, cet argent est dépensé. Aussi, pour les sites qui proposent la solution, c'est un gros facteur différenciant. Les crédits à la consommation existent bien pour quelque chose. Le BNPL vous permet d'aider votre audience à acheter sans mettre à mal son propre flux de trésorerie. Bien que souvent, le client doit payer un acompte dès le départ avant de se faire débiter son argent, petit à petit sur une période donnée et sans frais annexes. Un article de Clean Blue explique parfaitement les avantages et inconvénients de cette pratique pour les clients. Vous échelonnez vos paiements sur une durée, les taux d'intérêt sont faibles ou inexistants, et il n'est pas nécessaire d'avoir un score élevé de crédit pour être éligible. Par contre, tout retard amène des frais, nuit à votre code de crédit, et si vous utilisez plusieurs fois cet outil, vous vous retrouvez avec une avalanche de paiements différés et vous perdez tout l'intérêt de l'approche. Si je vous en parle, c'est parce qu'on arrive à un moment important de cette pratique. Déjà, ça fait 2 ans que la valeur des transactions BNPL double dans le commerce électronique mondial. Statista et Insider Intelligence nous promettent une croissance de 75% pour cette année. L'industrie travaille même d'arrache-pied pour proposer des solutions de paiement transfrontaliers, nous indique Forbes. Parce qu'aujourd'hui, il est impossible d'avoir accès à ce service si vous êtes dans un pays étranger au commerce en ligne sur lequel vous achetez. Forcément, c'est un manque à gagner pour tous les acteurs. Mais si je vous en parle surtout, c'est parce qu'on a un petit acteur du commerce en ligne qui pointe le bout de son nez, j'ai nommé Apple. On connaît déjà Apple Pay, un service de paiement intangible directement sur votre smartphone ou Apple Watch qui a déjà quelques années derrière lui. Maintenant, c'est Apple Pay Later. Le géant de la tech va offrir lui-même des solutions de paiement différé, donc des crédits à ses utilisateurs et rentre officiellement en concurrence avec des Afterpay, Zip ou encore PayPal. Le service arrivera fin d'année 2022 et pose une question légitime à tous les commerçants en ligne. Dois-je encore le proposer? Pour l'instant, la réponse est oui. Pour le moment, le service n'est pas sorti ni même partout dans le monde. Aussi, rien n'indique qu'Apple le sorte réellement à cette date. Mais surtout parce que cette annonce a fait réagir les institutions américaines, voyant là un risque gigantesque de monopole et de concurrence déloyale de la part d'Apple. Plusieurs raisons sont évoquées, notamment le fait que Apple se servira de sa gigantesque base de données sur Apple Pay pour entrer dans l'industrie du crédit. Affaire à suivre pour la marque. Sur le volet de discussion du podcast, on s'entretient avec Jean-Philippe Bergeron aujourd'hui, président et cofondateur de Hola Bamboo. Hola Bamboo, c'est quoi? C'est une boutique en ligne en forte croissance, certes, mais également une entreprise qui tient sa place dans les organisations éco-responsables connues au Québec. Car leurs produits en bambou sont écologiques et la demande pour leurs brosses à dents est telle que dans la dernière année, ils ont généré plusieurs millions de chiffres d'affaires avec leur commerce. On discute donc de leur parcours, leur croissance et également leurs plans futurs. Bonne écoute! On est de retour pour un 6e podcast aujourd'hui, un 6e entretien. Donc, on a eu beaucoup d'informations, beaucoup de discussions excessivement fascinantes avec tous les intervenants qui sont venus à la scène Google aujourd'hui. Ça a été exceptionnel comme journée, exceptionnel comme discussion. Et on continue pour ce 6e entretien avec Jean-Philippe Bergeron, président et fondateur de l'entreprise Hola Bamboo. Comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien. Content de t'avoir avec nous. Et on a également Pierre-Olivier Brassard, cofondateur et chef des opérations chez Novatez, qui est avec nous. Merci d'être présent pour ce nouveau panel.
Bien, merci encore de l'invitation.
Et messieurs, j'aimerais qu'on fasse un petit peu un débrief sur ce qui s'est déroulé aujourd'hui, parce que pour les gens qui vont nous écouter à la maison, on est à la fin de cette journée, de ce marathon, de cette course de conférences-là. Il y a eu 18 invités au total qui ont parcouru trois salles qui sont en haut de conférences. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intervenants, des panels de haute qualité, des sujets comme le marketing numérique, la logistique, la pénétration à l'international. Bref, plusieurs sujets ont été abordés et j'aimerais savoir, et je commencerai avec toi, Jean-Philippe, parmi toutes les conférences, lesquelles que tu as pris le temps d'écouter un petit peu plus, c'est quels ont été les apprentissages de ces conférences?
J'ai commencé avec la conférence avec les gars de Popeye Supplément. J'ai oublié leur nom, mais j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Les gars ont mis beaucoup l'emphase sur le data, l'importance du data, l'analyse du data. Puis de notre côté, c'est une chose qu'on veut mettre de plus en place. C'est très énergivore. Là. Ça prend beaucoup de temps. Et ça prend aussi un certain nombre d'investissements parce que il faut de l'intelligence artificielle aussi. Ça aide beaucoup au niveau de l'analyse. Mais j'ai trouvé ça très intéressant du monde qui sont plus avancés que nous autres à ce niveau-là. Puis de voir un peu comment eux, ils s'étaient enlignés. Puis comment nous autres, on pouvait se positionner par la suite là-dedans. Fait que ça, j'ai particulièrement aimé leur... Puis j'ai vu aussi la présentation de, je pense, c'est Charles, de CCM, la compagnie CCM. Super intéressant aussi d'une compagnie qui faisait pas de commerce électronique, qui a une longue histoire, puis ils se sont mis à intégrer le commerce électronique.
Bien sûr.
Qui, nous, c'est tout à fait le contraire, parce qu'on avait commencé avec le commerce électronique, puis après ça, on a développé la map. Je trouvais ça vraiment intéressant aussi.
Ah, il y en a toutes sortes. Il y en a toutes sortes des manières maintenant de commercialiser ces produits. Puis effectivement, on dirait que ça devient de plus en plus à la mode. J'en parlais sur un précédent entretien. Des entreprises qui vendent en ligne de plus en plus regardent pour des points de vente. Avant, c'était quasiment le contraire. Les entreprises dans les points de vente regardaient pour les ventes en ligne. Pierre-Olivier, de ton côté, bon, t'en es pas à ton premier rodéo, c'est quoi? C'est la cinquième édition présentement de la journée?
Oui, exactement.
Donc, cinquième édition de la journée e-commerce. Qu'est-ce qui a capté ton attention un peu aujourd'hui dans les conférences?
Moi, honnêtement, c'est la diversité dans les conférences. On traitait beaucoup plus de tu sais, on avait 18 conférenciers, on traitait beaucoup plus de sujets précis. Fait qu'il y en avait vraiment pour tous les goûts, pour tous les apprentissages, pour tous les niveaux aussi. J'ai écouté des bouts de celle de Popeye aussi, où ce qui parlait de l'importance justement du marketing automation, puis des différents qui présentaient qu'elle est quand même dans le technique, où ce qui va parler des différents flows qu'il va faire, puis comment il va jouer avec la donnée justement. C'était très intéressant, mais je pense que ce que j'ai aussi apprécié beaucoup, c'est de voir après ça la communauté d'e-commerçants échanger entre eux sur ces conférences là, puis de parler de plein de stratégies puis de manières de s'entraider pour les challenges qui voulaient surmonter. J'ai vu beaucoup de discussions sur le marketing international, sur expand aux États-Unis, expand hors Québec aussi. C'était un sujet qui revenait beaucoup, puis beaucoup de monde qui partageait leur expérience là-dessus.
Puis, je pense de ton côté, Jean-Philippe, on a pu te voir dans un panel parlant de développement durable avec Alexandre Desabrais, Brigitte Dionne et Cynthia Savard. C'est impressionnant à quel point l'engagement social, le développement durable, les impacts environnementaux, c'est devenu littéralement là partie intégrante de la fondation d'une entreprise. Même qu'on avait Alexandre qui était dans un entretien juste avant que vous arriviez, messieurs, qui nous disait qu'à la base, l'idée même de leur entreprise n'était pas de créer une montre, mais de créer un mouvement social autour d'une cause qui leur est chère. Comment t'expliques ça? Est-ce que vous, de votre côté, là, parce que vous êtes quand même proche de plusieurs causes, est-ce que ça faisait partie intégrante de votre idée à la base quand vous avez créé l'entreprise?
Bien, nous autres, c'est simple, puis j'en ai parlé aussi durant le panel, c'est quand ça fait partie de tes valeurs personnelles. Nous, au Lobambou, c'est trois personnes. Il y a moi, il y a Vicky qui est aussi ma femme, puis Simon-Pierre qui est un ami d'enfance. On est trois derrière l'entreprise. Puis à la base, ça fait partie de nos valeurs. Puis nous, la valeur principale de Lobambou, c'est contribuer à réduire les déchets plastiques en remplaçant les matières plastiques par des matières compostables comme le bambou et de rester accessible. Rester accessible, je l'ajoute, mais c'est super important depuis le début pour nous. On voulait, dès le départ, s'éloigner un peu de l'aspect comme élite green, si on veut, et puis d'être le plus accessible possible. Parce qu'en même temps, si tu veux avoir un impact environnemental positif, faut pas qu'il y ait genre 30 personnes qui utilisent tes produits, il faut qu'il y en ait 30 millions. Donc, pour nous, c'était vraiment important l'aspect universel. Donc, tu sais, nous, ça fait partie de nos valeurs. Donc, c'est sûr et certain que l'entreprise qu'on crée, qu'on développe, elle est teintée de nos valeurs parce que c'est nous qui prenons les décisions derrière ça. Donc, je pense que plus que de personnes qui ont ces valeurs-là qui deviennent entrepreneurs, qui sont en entreprise, plus que ça a un effet sur le milieu entrepreneurial.
Puis on en parlait ce matin, Pierre-Olivier, tu as littéralement fait un panel sur ce dossier, sur ce sujet-là avec nous. Est-ce que ça réveille peut-être un petit peu les gens qui sont pas ouverts à ça, des journées comme ça, des panels spécifiquement orientés développement durable au lieu de simplement parler de croissance, de profitabilité à tout prix?
Ben moi, je pense que tu sais, c'est un sujet qui était très présent dans la journée, tout ça. Je pense que c'est un incontournable. C'est pas le choix d'une entreprise, c'est pas le choix de penser à c'est où tu pourrais, c'est où dans ta chaîne d'approvisionnement, dans ton développement de produits, dans ton marketing, c'est où tu pourrais amener, tu sais, une twist pour améliorer la planète, pour favoriser le développement durable, que ce soit auprès de tes employés ou que ce soit auprès des produits ou de ta clientèle auxquels tu vends tes produits. Je pense que c'est un incontournable en ce moment.
Puis, bon, c'est important, bien entendu, d'avoir un impact, mais au-delà de ça, c'est important également d'avoir une entreprise qui est en croissance. Et Jean-Philippe, en 2020, vous avez figuré parmi les entreprises en plus forte croissance au Canada. Félicitations d'ailleurs. Vous
Merci.
Avez été nommé parmi un lot d'entreprises que la majeure partie des gens qui vont écouter le podcast connaissent très bien. Ma question pour toi maintenant, les stratégies de croissance que vous avez utilisées en 2019, en 2020, en 2021, sont-elles les mêmes qu'en 2022?
Absolument pas. Même, c'est tellement différent. Puis, je vais juste ajouter que cette semaine, on est sorti dans le classement du Financial Times. On est 123e en Amérique du Nord.
Oh, wow!
Ça, on est super content de ça. Puis ça inclut les États-Unis. Là, fait que c'est un autre game. Oui. Puis, on est 123. Puis, je regardais, que ce soit en dessous ou au-dessus de nous, il y a pas d'autres entreprises comme écologiques, là, de notre gamme, c'est manufacturière. Donc, on est bien content de ça. Mais pour répondre à ta question, non, parce que 2017, 2018, 2019, on aurait dit qu'il y avait comme une croissance organique naturelle. Tu sais, pour être bien honnête, on faisait pas grand chose, puis tout montait tout seul. Tu sais, c'est comme pas magique, là, mais c'était facile. En fait, c'était facile.
Le marché avait le vent dans le dos.
Ouais, exactement. Après, avec les restrictions, tout ça, pandémie en 2020, on dirait que ça a cassé le beat. Puis là, on a dû vraiment travailler fort pour juste garder le même rythme qu'on avait avant, mais avec beaucoup plus de travail. C'est là qu'on a décidé de rapatrier la production de brosses à dents, parce que majoritairement, les brosses à dents dans le monde, c'est fait en Chine. C'est vraiment le plus gros producteur de brosses à dents. Puis en 2020, quand tout est devenu tranquille, on s'est réunis, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper? On peut pas rester à la maison puis se bercer. Fait qu'on s'est dit, regarde, on part un projet, on va faire les brosses à dents au Canada. Fait que là, dans le fond, c'est tout de construire cette boîte, de créer une usine en réalité. Fait qu'on a pris un an et demi pour le faire. Et puis, toute notre stratégie de développement, de croissance, on a décidé de l'orienter autour qu'on appelle le projet Made in Canada. Donc, la phase 1, c'était les brosses à dents. Puis, à chaque année, on veut ajouter un autre produit. Ouais. Donc, dans le fond, on veut rapatrier d'autres produits.
Ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis, tu sais, on en a discuté brièvement dans le podcast de ce matin. J'ai entendu beaucoup le mot, tu sais, chaîne d'approvisionnement puis lenteur, tu sais, au niveau de, tu sais, quand tu fais sous-traiter, quand tu sous-traites ta production dans des pays à l'autre bout du monde, là, ça, la chaîne d'approvisionnement, il est rendu qu'il y a des délais partout. Comment, mettons, aurais-tu des trucs pour quelqu'un qui voudrait ramener tout l'aspect manufacturier au Canada? As-tu des conseils pour ces personnes-là?
Ben, les conseils, parce que faut pas se leurrer, là. Il faut que économiquement, ça fasse du sens de faire ça. Fait que première chose à faire que nous, on a fait aussi, c'est de faire le calcul. Est-ce que ça fait du sens?
Économique, bien sûr.
Parce que si ça fait pas de sens, si, mettons, ma brosse à dents que je vendais 4,99, je suis obligé de la vendre 8,99, on abandonne le projet. T'sais, pour nous, fait que là, on fait les premiers calculs, voir qu'est-ce que ça donne. Puis maintenant, au Canada, si on veut compétitionner avec la Chine, il faut s'automatiser. Il faut être robotisé le plus possible.
Ça, parce qu'eux, ils ont développé ça dans les dizaines de dernières années. Ils ont développé la machinerie, puis c'est souvent ça qu'on entend. On n'a pas la technologie au Canada. On
exact. Puis aussi, il y a le fait, nous autres, on y allait à chaque année en Chine, parce qu'on a aussi encore des produits qui sont faits en Chine, puis c'est pas nécessairement mal, parce que c'est chinois, mais on va les visiter, les usines, puis Eux, c'est parce que il y a beaucoup de choses qui sont faites manuellement. Tu sais, eux, c'est facile de dire, OK, je mets 50 personnes, vous allez vous m'emballer ça pendant une journée. Nous, on peut pas. Non, on n'a pas 50 personnes à juste emballer. Ça se peut pas. Fait que nous, faut tout penser de façon, tu sais, automatisée. Tu sais, faut que ça se fasse avec un employé capable de faire, tu sais, le lot. Fait que nous autres, en ce moment, on sort environ 10 000 brosses à dents par semaine.
Wow.
On est à peu près à 75 % de notre capacité, là. Parce que depuis le début aussi, on améliore beaucoup nos process. Fait qu'on, on augmente aussi notre capacité. Fait que le truc, c'est vraiment de faire le calcul, ça fait du sens, puis de deux, d'y aller vraiment vers une automatisation le plus complète.
Et c'est vraiment intéressant, ça. C'est vrai, non?
Ouais. Vous faites 10 000 brosses à dents par semaine.
Par semaine, oui.
Wow.
Ouais, on vend à peu près 600 000 brosses à dents par année.
Fantastique. Bon, en tout cas, félicitations pour ça. Puis bon, c'est beau les construire. Comment vous les vendez? C'est quoi les stratégies?
Ben, nous autres, l'entreprise a vraiment été lancée avec le commerce électronique. Nous autres, c'est vraiment ça qui nous a fait connaître. 2017, 2018, les deux premières années, c'était vraiment quasiment exclusivement du commerce électronique. Puis là, par la suite, le retail a embarqué. Mmh. Fait que nous autres, on a comme un peu, on joue sur les deux tableaux. Fait qu'on fait du commerce en ligne, puis on fait du retail. Dépendamment des produits, il y en a qui se vendent mieux en magasin, d'autres sur le web. Donc, ça va dépendre des produits. Mais on a vraiment une stratégie comme, autant quand on fait de la publicité, tu sais, on y va pour de la notoriété, puis on y va aussi pour du call to action, puis on va viser certains produits, dépendamment c'est quoi les meilleurs canaux de vente.
Bien sûr.
Fait que, puis on a développé aussi récemment, quand on parlait des nouvelles stratégies là depuis 2019, on a développé beaucoup aussi le corpo puis les campagnes de financement. Mmh. Ces deux-là ensemble, ça représente maintenant près de 20 % de notre chiffre d'affaires maintenant. On a poussé beaucoup là-dessus. Le corpo, c'est exemple là, des brosses à dents, ça peut être des brosses à dents, mais des cadeaux pour des compagnies mettons, qui remettent ça à leurs employés par temps de Noël. Tu sais, on grave leur logo, on est capable de faire quelque chose avec ça. On fait pour pas mal tous nos produits, on est capable de personnaliser. Fait que ça, on a poussé beaucoup ça, puis on a les campagnes de financement aussi. C'est des écoles, au lieu de vendre du chocolat, ben ils vendent des brosses à dents ou d'autres produits. Fait que c'est comme une façon différente d'aller chercher une clientèle. Puis même, c'est bon aussi pour la publicité, parce que si quelqu'un...
La collaboration entre les entreprises.
Exactement.
Tu sais, l'espèce de cross-marketing que vous pouvez faire, justement, juste en utilisant leur base de données, puis tu sais, promouvoir un produit ensemble.
C'est ça. Souvent, tu sais, c'est co-brandé, tout
ouais, ça. C'est ça.
Et aux campagnes de financement, c'est le fun, parce que souvent, c'est des enfants, ta nièce vient de vendre une brosse à dents, mais là, tu lui diras pas non pour 5 $, mais là, tu l'as essayé, la brosse à dents est rentrée chez vous, puis là, si tu l'aimes, tu peux la retrouver chez Jean Coutu. Fait que c'est intéressant aussi pour ça.
Puis, bon, vous avez commencé commerce en ligne, vous avez fait vos classes avec le commerce en ligne. Comment s'est intégré le volet des ventes en magasin? Quelles ont été les réflexions qui vous amenaient à vous dire, là, tu sais quoi, c'est le temps d'avoir un nouveau canal de distribution?
C'est arrivé avec la demande. C'est arrivé un peu de façon naturelle. Il y a des commerces qui ont commencé à nous approcher. Ça commence souvent toujours comme ça. Hein? Là, on commence l'exportation, puis c'est le même principe, même dans des nouveaux marchés. C'est toujours les petits comme indépendants qui vont commencer à signifier de l'intérêt. Ça me tente. Puis là, après ça, les plus gros joueurs voient qu'il y a des indépendants qui ont embarqué, puis que là, ça roule. Fait que là, tu as aussi un historique de vente que là, tu peux utiliser pour approcher les plus gros joueurs. Puis il y a des produits aussi qui font sens plus en retail qu'en commerce électronique, comme la brosse à dents. Ça fait plus de sens de vendre ça. C'est comme plus culturel si on veut d'acheter ce genre de produits-là, même si on en vend encore beaucoup sur le web. En pharmacie, c'est très fort.
Puis, bon, j'aimerais discuter un petit peu avec toi. Puis, Pierre-Olivier, n'hésite pas à donner ton point de vue là-dedans parce que je pense, vous avez pas une entreprise également qui est dans le domaine des brosses à dents, vous aussi?
Oui, ça. Plus, en ce moment, qu'on travaille là-dessus dans le volet américain.
C'est Nudge, hein, c'est ça?
Nudge, que ça s'appelle.
Nudge, l'entreprise. Nudge, donc, peut-être tu vas avoir ton mot à dire également à ce niveau-là. Mais bon, on a eu beaucoup de discussions avec des intervenants aujourd'hui. Dans ces discussions, on discutait, bon, bien entendu, de commerce en ligne, mais la symbiose, la synergie qui pouvait s'intégrer entre des ventes dans des points de vente physiques, des magasins et bien entendu les efforts qu'on va faire en ligne pour commercialiser notre commerce électronique. La question que je te poserais maintenant, comment vous, de votre côté, vous voyez le tout? Est-ce que vous avez été capable de créer cette synergie-là entre les deux plateformes? Est-ce que des efforts que vous allez faire pour promouvoir votre boutique en ligne, vous êtes capable de tracer si ça a des impacts sur vos ventes en magasin?
Souvent, c'est assez proportionnel. Les proportions sont différentes, mais quand on voit qu'un produit fonctionne bien en ligne, proportionnellement un peu plus, mettons, qu'un autre SKU, ben ça se reflète aussi au niveau des ventes en magasin. Puis on le voit dans les PO qui vont rentrer au fur et à mesure. C'est sûr qu'en magasin, c'est beaucoup plus difficile de tracer le chemin de la vente qu'en ligne. C'est ça qui est intéressant avec la ligne en ligne. Puis c'est pour ça aussi qu'on veut garder cet aspect le commerce en ligne. Puis on veut pas l'abandonner, même si retail continue à augmenter, parce que c'est vraiment le meilleur laboratoire. laboratoire. T'as toute c'est l'information ça. Que tu veux. Puis souvent, tous les nouveaux produits, on les commence toujours en ligne. Puis c'est là qu'on voit la réaction. Les utilisateurs, les consommateurs sont souvent très généreux de leurs commentaires. Souvent, quand surtout quand c'est négatif. Donc, on va se dire, le chiolage est plus régulier que. Mais puis on peut envoyer du feedback. Tout ça fait que c'est intéressant.
Ça, exact. C'est que t'as un feedback direct. Là. Quand tu vends en ligne, tu peux directement avoir un point de contact après ça avec les consommateurs. Puis tu peux améliorer ton produit là-dedans. Fait que, surtout, j'imagine, nous autres, on le dit avec Telencella, on le dit avec Nudge, on le dit avec d'autres clients. On a du feedback instantané sur la qualité du produit, puis sur, après ça, de développer, d'amener un produit à maturité pour qu'après ça, il soit peut-être plus prêt à être vendu at large ou vendu en distribution. Je pense que c'est une très bonne stratégie, effectivement.
Puis même, je rajouterais qu'en ligne, au niveau du packaging, tu n'es pas obligé d'être 100% parfait pour le vendre en ligne, parce que tu sais, en ligne, c'est ta page web, dans le fond. Quand tu es en magasin, là, faut vraiment que ce soit parfait, parce que c'est comme la seule vitrine par rapport à ton produit, c'est ton emballage. Mais sur le web, quand même que ton emballage est pas parfait, il y a encore des petites erreurs, c'est pas ben grave, parce que c'est pour ça que c'est le fun au début de commencer avec le web.
Non, j'aime ce que j'entends ici. Puis bon, il y a beaucoup de changements qui se sont déroulés dans la dernière année. On l'a vu au niveau des canaux publicitaires. Toi, tu as mentionné que ta stratégie n'est plus la même qu'elle était auparavant. Et là, est-ce que vous êtes en train, vous, de votre côté, d'élaborer une nouvelle stratégie, une nouvelle approche marketing pour, encore une fois, aller rechercher ces parts de marché-là? Parce que tu l'as dit, ça l'a changé. Mais si ça l'a changé, il y a des excellentes chances qu'avec les changements qu'on voit dans les canaux publicitaires, elle est portée à se modifier dans le futur. Est-ce que vous êtes dans des plans de nouveautés que vous allez mettre en place prochainement?
Donc, absolument. Depuis qu'on a commencé le projet Made in Canada, le rapatriement de la production, la manufacture de brosses à dents ici, comme je l'ai dit tantôt, nous, on veut vraiment continuer à rapatrier d'autres types de produits dont la production va être faite à Drummondville dans notre usine. Donc, nous, c'est vraiment central de notre stratégie. Maintenant, on a aussi de plus en plus de compétiteurs. Au début, quand on a commencé avec l'exemple la brosse à dents en bambou, en 2016-2017, on n'était pas beaucoup de joueurs. Là, maintenant, il y en a un paquet de joueurs. Donc, c'est fou. Fait que, tu sais, non, mais c'est la réalité. Puis une autre, notre plus gros compétiteur au Canada, c'est Colgate. Quand je regarde les données Nielsen à chaque année, des ventes retail, c'est Colgate qui nous vole en quelque sorte des parts de marché, c'est pas les autres. Fait que, puis quand que tes compétiteurs, c'est du monde comme Colgate, ben ta stratégie, tu dois l'adapter. Les autres, ils vont faire une politique promotion, prix spécial. Tu sais, c'est beaucoup, les grosses chaînes vont beaucoup jouer là-dessus. Fait que nous autres, on n'a pas le choix depuis l'année passée d'axer notre stratégie plus sur les promotions, les spéciaux, tout ça. C'est maintenant comme ça qu'on réussit à se battre contre d'autres joueurs. Mais quand même, c'est toujours surprenant. Ola Bamboo, c'est 5% des ventes de toutes les brosses à dents en pharmacie, c'est-à-dire incluant plastique, électrique, peu importe. Là, 5% des brosses à dents qui sortent, qui sont vendues, c'est une Ola Bamboo.
Au Canada, au Québec?
Au Québec.
Wow.
Nous autres, on est super contents de ça. 5%, c'est rien. Mais en même temps, c'est quand même une bonne base, 5%, c'est parce qu'il en passe des brosses à dents.
Ben, dans le contexte, où est-ce que littéralement toute la population se brosse
à dents? Mais non, mais c'est ça, exactement.
5%, c'est pas mauvais.
Ça fait longtemps que ça existe, ce produit-là. Ça fait longtemps qu'on, tu sais, il n'y a pas des grosses évolutions dans les brosses à dents, à part, mettons, le côté bamboo naturel.
Exactement.
Mais tu sais, c'est pas, ça reste une brosse à dents. On sait tout, ça ressemble à quoi une brosse à dents?
C'est de base. Fait que, ce qui est intéressant, c'est de dire, OK, 5%, on a une base, mais surtout, on est capable d'aller en chercher encore plus. Les pointes de notre pointe de tarte grossit, mais la tarte grossit aussi. Ouais. Parce que juste, mettons, si on parle des brosses à dents en bambou, c'est une augmentation depuis 2018, une moyenne de 10 à 15 % par année. Fait que c'est intéressant aussi. Et c'est pour ça aussi que ça attire différents joueurs puis plus de compétition. Fait que notre stratégie va être beaucoup au niveau du prix.
Intéressant. Parle-nous un peu de Nudge, là. Oui. Donc, c'est quand que vous avez lancé, là? Parce que bon, pour situer les gens qui vont écouter le podcast aujourd'hui, Pierre-Olivier, il est chef des opérations chez Novatez. Novatez, vous incubez certains projets. Un de ces projets, c'est Nudge. Parle-nous un petit peu de l'idée de ce lancement-là, parce que il y a quand même des similitudes avec l'histoire de Jean-Philippe aujourd'hui, là,
ici. Oui, ben, l'idée, ben, ça vient vraiment de nous à l'interne. plus particulièrement François Jérôme aussi, qui nous est arrivé avec un projet, une idée vraiment intéressante qu'on a tout de suite embarqué, c'est que dans le fond, on cherchait dans le marché un produit, on voulait faire une différence au niveau des bonnes habitudes des gens, puis de là est venue la compagnie Nudge, où ce qu'on a fait développer une recette de pâte à dents naturelle, 100% naturelle, en faisant beaucoup de tests avec des vraies pâtes à dents. Je me rappelle au bureau, on avait plein de sortes de pâtes à dents, on les a toutes essayées, puis on a travaillé avec un laboratoire spécialisé pour développer cette pâte à dents là. Puis ensuite de ça, est venu le volet bonnes habitudes, qu'est-ce qu'on fait qu'on pourrait améliorer. Fait que pâte à dents, brosse à dents aussi en bambou, ça fait partie, c'est pas notre principal focus, mais on trouvait que c'est un accessoire qui était très complémentaire à la pâte à dents.
On va vous les fabriquer vos brosses à dents. Ben oui, faire plaisir,
je suis très intéressé à ce qu'on s'en parle après. Puis aussi le rince-bouche en concentré, au lieu de se dire bon OK, ben on va prendre de quoi qui est finalement dilué dans de l'eau, dans une grosse bouteille en plastique, ben après, on va être concentré, on va juste mettre quelques gouttes dans un petit verre, puis mettre un peu d'eau. Ça va faire la même chose, puis c'est 100% naturel aussi. Fait que c'est avec cette idée-là qu'on est parti, qu'on a développé ces produits-là. Puis après ça, on s'est posé la question, bon, tu sais, je sais pas si le Québec est prêt. On a commencé ça il y a 200-300. On le savait pas si le Québec était prêt. On s'est dit, regarde, on va faire des études de marché. On va regarder dans quel marché qui est plus un early adopters de trend comme ça, tu sais, puis de bonnes habitudes, puis un marché même un peu plus gros aussi. Fait qu'on a décidé de commencer aux États-Unis. Puis ça, on n'avait aucune expérience aux États-Unis, en Californie, pour marketer là. On n'avait pas fait beaucoup de stratégies là dans le passé. On est plus habitué au Canada en ce moment. Fait que c'est là que le principal challenge était dans un nouveau marché. Puis je te cacherai pas que c'est un apprentissage en continu.
Ben oui, clairement.
On n'arrête pas de se réinventer. On adapte nos stratégies. C'est pas aussi simple de contacter un influenceur là-bas que d'ici, même pour le même nombre de reach. On travaille très fort. Écoute, toute l'équipe et on a une grosse équipe là-dessus aussi qui font du contenu, qui s'occupe d'alimenter la communauté aussi, puis ça va super bien en ce moment.
Puis toi, Jean-Philippe, si on parle un peu du sud de la frontière, ça ressemble à quoi, vous, votre vision par rapport à ça?
Les États-Unis, en ce moment, c'est pas notre top priorité. Nous, on a décidé de miser plus sur l'Europe. Puis, on est dans environ 300 pharmacies en Grèce. Puis là, on mise depuis l'année passée. Puis là, on mise beaucoup sud de l'Europe. On a une porte d'entrée. Puis tu sais, c'est beaucoup une question d'opportunité aussi. Hein. Dès que tu as une opportunité, tu fonces là-dedans. Un coup, tu as le pied dans la porte. Ben là, tu veux tout le revendre.
Ah oui.
Fait que là, il y a eu une ouverture au niveau de la Grèce. On s'est dit, OK, puis ça fonctionne bien. C'est ça qui est le plus agréable. Parce que, entre autres, nous, on savait pas qu'on a nommé la compagnie Ola Bambou. Tu sais, Ola, pour nous, ça voulait à peu près rien dire. Mais tu sais, en portugais, ça veut dire bonjour. En espagnol, ça veut dire une vague. Puis en Grèce, là, j'ai un blanc de mémoire, mais ça veut dire quelque chose aussi. En tout cas, fait que on a choisi un très bon nom, finalement, sans le savoir, parce que nous, on n'avait pas pensé à ça. C'est pas issu d'un grand brainstorm. Mais donc, tout ça pour dire que la Grèce est devenue notre plus gros client après le Canada. Les États-Unis, on en fait depuis le début, tu sais, via Tundra, puis faire des affaires comme ça, c'est facile, mais c'est sûr que ça génère pas, tu vis pas avec ça non plus. Mais les États-Unis, c'est un peu comme notre priorité numéro 2. Mais on a une ouverture au niveau de l'Europe, donc on pousse l'Europe.
Puis est-ce que vous vendez également en ligne en Europe ou vous faites que du briquet mortier?
Non, on le fait en ligne, mais via un distributeur. Parce que niveau de l'exportation, on a décidé d'y aller avec des distributeurs. Parce que, comme tu disais, c'est super important, tu sais, c'est un marché qui est nouveau, c'est complètement différent. Les façons de fonctionner sont différentes. Ça demande énormément d'investissement aussi. Donc, on aime autant travailler avec un distributeur qui est là, qui connaît le marché, qui connaît les joueurs, qui a ses contacts. C'est beaucoup plus simple pour nous.
Intéressant.
Peut-être aussi un petit conseil pour le monde qui veut l'essayer. Il y a des plateformes qui existent comme RangeMe. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
C'est pas un gros succès, mais ça fonctionne.
Il y a des plateformes qui permettent de se faire connaître comme entreprise qui veut distribuer des produits, qui veut manufacturer des produits ou ce que tu pourrais trouver des distributeurs. Nous autres non plus, on n'a pas eu tant de succès, mais j'ai vu par exemple du monde que ça vient pogner. Puis, tu sais, c'est une question aussi de tu l'essayes. Ça coûte pas grand-chose d'essayer. Puis si tu as des ventes, tant mieux. Puis ça vaut le coup de sonder le marché aussi, mais nous autres, on a eu des chaînes d'hôtels qui ont commandé, qui ont essayé nos produits pour essayer dans leur chambre d'hôtel, puis pour aussi vendre dans leur boutique aussi, trouver que ça fitait bien avec leur branding, puis ça venait rejoindre leur valeur. Fait que c'est de même qu'ils ont découvert, puis ils ont.
Ben, juste un bon site internet en anglais, là, ça te fait faire des fois des ventes, des opportunités. Oh, ben, on a vendu 12 000, c'est des jouets de plage pour enfants, là, on fait ça, c'est comme une pelle puis un râteau, c'est en bambou, là. On a vendu 12 000 aux Maldives. C'est juste un one-shot deal. On ils ont été intéressés, on a envoyé les prix, des échantillons. Oui, OK, c'est beau, envoyez-nous ça. C'était un peu avant, justement, toute la pandémie. C'est une belle vente, c'est le fun, c'est facile. Puis ils ont vu ça sur leur site, sur notre site Internet, la version anglaise de Ola Bamboo. Puis ils ont été intéressés, fait que...
Ah, faut croire qu'il y a plusieurs opportunités d'affaires qu'on peut saisir si bien entendu on les comprend. Et c'est ce que j'ai pu voir avec vous, avec la Grèce. Une opportunité s'ouvre, vous la prenez à pieds joints. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres personnes internationales qu'on pourrait savoir pour les prochaines semaines, pour les prochains mois avec Ola Bamboo?
Ce qui s'en vient, puis les partenaires qu'on discute en ce moment qui sont les plus sérieux, c'est United Kingdom, le UK, le Royaume-Uni. Les services, tu parlais de RangeMe, mais un service qui est totalement gratuit, c'est service consulaire du Canada, le service délégué commerciaux, c'est ça le mot que je cherchais. C'est totalement gratuit, mais en fait, on paye ça avec nos taxes, fait qu'en réalité, ça coûte une fortune, mais nous, quand on l'utilise, c'est gratuit. Puis, c'est très, très aidant. Souvent, c'est des gens qui sont rattachés à l'ambassade. Il y en a dans un paquet de pays. Le Canada est pas mal représenté partout. Puis, comme au Royaume-Uni, c'est grâce à eux qu'on a rencontré ces partenaires, qui sont aussi encore des distributeurs, qui sont vraiment des gens très, très sérieux. Puis, on est en train de travailler avec eux pour au courant de l'année. Puis on a tellement aimé notre expérience que là on commence à approcher d'autres consulats canadiens dans d'autres pays pour voir si on peut pas répéter l'expérience.
Intéressant. Bon, Pierre-Olivier, Jean-Philippe, avant de terminer l'entretien, j'aimerais savoir, on est au mois d'avril 2022 et j'en ai parlé un petit peu plus tôt avec d'autres intervenants. Q1, Q2, c'est un bon moment pour expérimenter. Parce qu'habituellement, ça va devenir un petit peu plus difficile en Q4 d'expérimenter parce qu'on est dans un gros crunch de vente pour la majeure partie des entreprises. Qu'est-ce que vous voulez expérimenter dans les 3 prochains mois avec votre entreprise? Je commencerai avec toi, Pierre-Olivier. Parle-nous un petit peu plus du volet boutique en ligne que le volet agence. J'aimerais ça t'entendre sur le sujet.
Oui, bien, niveau boutique en ligne, tu sais, autant avec nos clients qu'avec les boutiques qu'on possède aussi. Je pense que tu sais, TikTok prend depuis plusieurs années beaucoup d'ampleur. En ce moment, c'est quoi qu'on veut focusser. Puis la stratégie derrière TikTok est vraiment différente des autres réseaux comme Instagram, comme Facebook. Fait que ça, c'est quoi qu'on va focusser de plus en plus sur aller chercher ce marché-là aussi, puis aller chercher ce persona-là aussi qui est un peu plus jeune aussi. Quoi d'autre aussi? On en a plein. Focusser sur l'expansion internationale aussi, la distribution à l'international. Ça aussi, c'est un peu une game de contact puis de réseau, surtout aussi qu'on s'aperçoit. Mais je pense que tu sais, si tu finis par cogner sur différentes portes, tu vas finir par trouver la bonne, puis tu vas finir par embarquer dans le bon réseau. Puis je pense que si tu as un bon produit qui est bien marketé puis qu'il y a des bonnes bases en ligne, je pense qu'il y a rien qui est impossible aussi pour l'exportateur. T'en es un très bon exemple. Tu sais, je pense pas que si je t'avais posé la question il y a une couple d'années, penses-tu que tu vas en vendre des Maldives, tu m'aurais probablement dit
pas en tout.
Puis c'est ça aussi l'avantage, c'est que c'est juste d'être out there puis de bien exécuter la base marketing. Je pense qu'avec ça, on est capable d'aller chercher vraiment des résultats intéressants. Puis sinon, ben TikTok va vraiment être un gros focus en ce moment.
Jean-Philippe?
Ben, nous, c'est vraiment de terminer la phase 2 du projet Made in Canada, c'est-à-dire de commencer la production des cotons-tiges, des Q-tips, là, qui est une marque, c'est en fait des cotons-tiges qu'on va produire ici. Puis dans le fond, on en vend déjà, c'est des cotons-tiges en bambou. Mais là, on va remplacer comme le bâtonnet en bambou, ça va être de l'érable. Puis dans le fond, c'est un deal qu'on a fait avec une usine de guitare qui est proche de Drummondville, Guitare Godin. Dans le fond, on prend le retail de bois. Les autres, ils découpent leur guitare. C'est du super de beau bois. Nous autres, on va prendre les retails, on amène ça à l'usine, puis on en fait des bâtonnets, puis on fait les cotons-tiges avec ça. Fait que ça va être, c'est de l'économie circulaire. Fait qu'on ajoute une coche supplémentaire à l'aspect environnemental. Donc, nous, c'est vraiment de clore ce projet-là. Là, justement, là, en juin, on devrait avoir terminé puis commencé la commercialisation de ce nouveau produit-là.
Fantastique. Messieurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec moi pour ce 6e entretien aujourd'hui. J'espère également que la journée e-com vous aura donné des idées pour la suite des choses. J'ai l'impression que c'est pas ce qui manque à vous écouter parler. Donc, merci de votre temps. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Il y a un 4 à 6 qui attend tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller relaxer un petit peu autour d'un drink là, dans les prochaines minutes.
Bien, merci.
Bien, merci.